Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est Alain Sirou que Franck Ferrand a convié à nous accompagner cet après-midi au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. L'ami Alain est venu nous parler d'une grande figure de la science, mais pas seulement. Car si Arago est un physicien de renom, le premier qui en France aura popularisé l'astronomie notamment, il est aussi un politicien de haut vol. Comme on dit, l'homme a plus d'une corde à son arc, comme Alain du reste.
Oui, et tout à l'heure à la fin de l'émission, on vous répondra à la question d'Émilie sur l'origine de l'expression « jeter l'éponge ».
Oh ben ça c'est une question claire qui appelle une réponse simple, n'est-ce pas? Claire et simple, comme l'étaient les fameux discours d'Arago.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
La carrière d'un historien, ou comme j'aime à dire d'un passeur d'histoire, est ponctuée de belles rencontres à plusieurs générations de distance. Eh bien, je vous prie de croire que celle d'aujourd'hui en est une. Monsieur François Arago, dont on ne parle pas suffisamment, me semble-t-il, est non seulement un grand esprit scientifique, mais aussi une grande conscience. Et puis, c'était un homme de bien, un humaniste. Les 67 années de son existence méritent, je crois, d'être racontées depuis sa naissance dans les Pyrénées orientales. Il est né le 26 février 1786, très peu de temps avant la Révolution, à Estagel, jusqu'à sa mort à Paris le 2 octobre 1853, c'est-à-dire dans les tout débuts du Second Empire. Arago est né dans une de ces familles bénies, vous savez, où règnent l'amour et le goût de l'effort mêlés, ces espèces de familles où toute la fratrie réussit. On pourrait en citer un certain nombre, y compris dans la période très récente, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le cas, en l'occurrence. Il n'y a pas un Arago en vérité, mais quatre. Il y a le grand frère Jean, qu'on oublie généralement, qui a été général, qui a fait une carrière incroyable au Mexique, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. Et il y a Jacques, l'explorateur, bien entendu, et puis bien sûr l'écrivain et homme politique, celui qui a été maire de Paris, Étienne Arago. Honnêtement, François les domine par sa carrure intellectuelle et personnelle, comme il dominait l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il était, ce François Arago, un incroyable orateur. Lorsque Arago monte à la tribune, nous dit Timon dans son livre des orateurs, la chambre, attentive et curieuse, s'accoude et fait silence. Les spectateurs se penchent pour le voir. Sa stature est haute, sa chevelure est bouclée et flottante et sa belle tête méridionale domine l'assemblée. Il y a dans la contraction musculeuse de ses tempes une puissance de volonté et de méditation qui révèle un esprit supérieur. À la différence de ces orateurs qui parlent sur tout et qui ne savent les trois quarts du temps ce qu'ils disent, Arago ne parle que sur des questions préparées qui joignent à l'attrait de la science l'intérêt de la circonstance. Ses discours ont ainsi de la généralité et de l'actualité et ils s'adressent en même temps à la raison et aux passions de son auditoire. Aussi ne tarde-t-il pas à le maîtriser. À peine est-il entré en matière, il attire et concentre sur lui tous les regards. Arago est franchement populaire. C'est non seulement un grand orateur, mais c'est tout simplement un homme d'influence. C'est son ami le botaniste Alex de Humboldt, vous savez, le célèbre Humboldt, sur lequel d'ailleurs nous devons faire, entre parenthèses, une émission depuis 2 ou 3 ans, mais je pense qu'elle finira par venir un jour. C'est lui qui disait que le sang méridional se découvrait facilement dans François Arago, et pour cause, il est originaire des Pyrénées. Orientale, cet homme-là. Il est fils de propriétaire terrien. Il va donc passer, je vous l'ai dit, ses premières années à Estagel, hein, dans ces Pyrénées orientales. Une ville étape pour les troupes qui se rendent à Perpignan. C'est pas tout à fait une ville de garnison, mais presque. Ce qui fait que la maison est souvent remplie d'officiers, de soldats. Et François Arago lui-même écrit dans Histoire de ma jeunesse, mon père, licencié en droit, avait de petites propriétés en terres arables, en vignes et en champs d'oliviers, dont le revenu faisait vivre sa nombreuse famille. Alors, Il va faire sa première éducation tout à fait classiquement, normalement à l'école primaire d'Estagel, où j'appris de bonne heure à lire et à écrire, dit-il. Bah, au moins à l'époque, on apprenait ça à l'école primaire, c'était déjà ça. Je n'entre dans ces détails que pour montrer à quel point se sont trompés ceux qui ont imprimé qu'à l'âge de 14 ou 15 ans, je n'avais pas encore appris à lire, dit-il. Et oui, il a été bien formé, bien instruit, ce petit François Arago. Il va poursuivre ensuite ses études à Perpignan. Son père est nommé trésorier de la monnaie en 1795. Il est externe au collège communal de la ville. Et là, il s'intéresse pas mal à la littérature. Et puis, eh bien, il va se mettre à préparer le concours de Polytechnique parce qu'il a rencontré un officier qui lui a dit qu'il sort de l'école Polytechnique. Alors, il veut faire pareil. Fini les classes de l'école centrale où l'on m'enseignait à admirer Corneille, Racine, La Fontaine, Molière, dit-il, pour ne plus fréquenter que le cours de mathématiques. Il va mettre 2 ans et demi à préparer ce concours de l'IX, hein, ce concours de Polytechnique. Il passe l'examen en 1803, il a 17 ans à l'époque, il le passe à Toulouse. Il faut vous dire que c'était la première fois que des élèves venant de Perpignan se présentaient au concours de Polytechnique. L'examinateur n'est pas n'importe qui, c'est le très grand mathématicien Gaspard Monge. Monge lui adresse une question de géométrie, une autre d'algèbre, 2 autres questions pour son plaisir. Quelles sont les relations d'une ligne courbe et de la ligne droite qui lui est tangente, demande-t-il. Comment déterminez-vous la tension des divers cordons dont se compose une machine funiculaire? Arago raconte, Monge, passant d'un extrême à l'autre, se leva, vint m'embrasser et déclara solennellement que j'occuperai le premier rang sur sa liste. Autant dire qu'il a complètement ébloui l'examinateur. Il va donc faire Polytechnique et puis il en sort, évidemment, en 1806. Il est engagé à ce moment-là à l'Observatoire de Paris comme secrétaire bibliothécaire du Bureau des Longitudes. Il va devenir le collaborateur de Biot dans ses recherches sur la réfraction des gaz. Et puis, là-dessus, il est envoyé, on est sous l'Empire, hein, l'administration de Napoléon, sur la recommandation de Monge, l'envoie en Espagne comme adjoint de Biot, justement, avec pour objectif de prolonger la mesure d'un arc du méridien de Paris, qui va servir de base à ce nouveau système métrique qui est en train de s'installer non seulement en France mais dans toute l'Europe. On est à l'époque du Grand Empire. Hein. Alors il faut créer un grand triangle destiné à relier l'île d'Ivissa au Baléares à la côte d'Espagne et aux montagnes de Catalogne. Biot le laisse terminer tout seul en avril 1807, une fois que les principales opérations sont terminées. Il faut vous dire qu'on est dans une période extrêmement troublée puisque c'est la guerre d'indépendance espagnole hein, qui éclate à ce moment-là. Alors il va lui arriver plein d'affaires. Là, ça devient un véritable roman, son histoire. Il est pris pour un espion par des Majorquins qui l'enferment. Il arrive à s'évader. Il a pris toutes ses notes avec lui quand même, une partie de ses instruments. Il se rend à Alger avant d'embarquer sur une frégate algérienne direction de Marseille. Seulement là, un corsaire espagnol le fait prisonnier, le reconduit en Espagne. Il va reprendre difficilement la route vers la France quand une tempête mène son bateau jusqu'en Algérie. Enfin bref, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que le chemin du retour n'aura pas été facile. Au retour, justement, il a 23 ans, l'Académie des sciences décide de le récompenser. Il va être le plus jeune académicien. Oui, quand même, vous avouerez que pour entrer à l'Académie des sciences, 23 ans, c'est un tout petit peu jeune. Alors, cet Arago est un personnage tellement fourmillant dans les diverses disciplines qu'il coiffe en matière scientifique que, personnellement, je préfère là céder la parole à Alain Sirou. Hein, parce que, évidemment, en tant que physicien, je pourrais vous dire, Doctus cum libro, hein, savant avec un livre, je pourrais vous dire qu'il soutient la théorie de l'ondulation, qu'il découvre la polarisation rotatoire des cristaux de quartz, qu'il réalise l'expérience d'Oersted. Enfin bon, on sera bien avancé parce que comme je suis incapable de vous dire à quoi tout ça correspond, en plus ça me rappelle sinistrement mes cours de physique en terminale. J'ai fait une terminale C, moi ça paraît un peu étrange pour un littéraire dans mon genre. Donc je vais laisser tout à l'heure Alain nous expliquer un petit peu mieux de quoi il s'agit. Je préfère me retrouver aux côtés d'Arago dans son cours d'astronomie, ce cours d'astronomie qu'il va te conduire hein, pendant 33 ans jusqu'en 1845. Il publiera d'ailleurs une astronomie populaire, une sorte de petite encyclopédie très complète sur l'astronomie de son temps et qui va beaucoup contribuer à populariser cette discipline bien avant le Camille Flammarion dont j'ai souvenir que nous avions parlé ici même. Les cours d'Arago devaient être quelque chose d'extraordinaire parce que il avait ce talent d'orateur, encore une fois. À la différence de ces orateurs qui parlent sur tout et qui ne savent les trois quarts du temps ce qu'ils disent, hein. Vous rappelez ce que disait tout à l'heure ce spécialiste des grands orateurs français. Lui savait tout et il était capable d'en parler brillamment. Le voilà qui prend, pour ainsi dire, la science entre ses mains, nous dit un témoin. Il la dépouille de ses aspérités, de ses formules techniques. Il la rend si perceptible que les ignorants sont aussi étonnés que charmés de le comprendre. Sa pantomime expressive anime tout l'orateur. Il y a quelque chose de lumineux dans ses démonstrations et des jets de clarté semblent sortir de ses yeux, de sa bouche, de ses doigts. Il aurait été dommage qu'un homme disposant de tels talents ne les mît pas au service d'une vraie cause en dehors de la discipline à laquelle il s'était consacré. Et, en l'occurrence, il va s'intéresser à la politique. Il y vient sur le tas à la politique, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'il a laissé une forte empreinte, et on va y venir tout à l'heure, mais en même temps, on ne le voit pas tellement faire de politique avant juillet 1830, avant la fameuse révolution des Trois Glorieuses. Alors quand même, il avait, sous la Restauration, au moment où Charles X a tendance à durcir un peu le régime, il avait quand même inséré quelques remarques sur ses décisions de Charles X, sur la révision de la charte de 1814, qui censurait notamment la liberté de la presse. Il avait dit ceci, Fresnel, donc il rend hommage à son confrère, hein, Fresnel, comme tant de bons esprits, s'associa vivement en 1814 aux espérances que le retour de la famille des Bourbons faisait naître. La charte de 1814, exécutée sans arrière-pensée, lui paraissait renfermer tous les germes d'une sage liberté. Vous imaginez que dans le public, tous ceux qui n'osaient pas critiquer trop ouvertement les décisions de Charles X ont applaudi à tout rompre. Et dans les mois qui suivent, on va voir notre Arago prendre goût à ses prises de position politique. Il est officier de la garde nationale, ça prouve quand même un certain engagement. Il sera d'ailleurs bientôt colonel de cette garde nationale, de cette armée populaire de Paris, hein, qui a souvent été à l'origine des modifications, des changements de régime. En l'occurrence, son rôle en juillet 1830 est fondamental. On va voir Arago se convertir à l'opposition au régime dès le 14 février 31. Il y a une cérémonie religieuse à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois pour commémorer l'assassinat du duc de Berry, qui avait eu lieu donc 11 ans plus tôt. Et à cette occasion, il y a des troubles, une émeute. Et là, on voit Arago prendre fait et cause pour les émeutiers. Il tend vraiment à gauche et même très à gauche, cet Arago. À une époque où le régime de Louis-Philippe, cette monarchie constitutionnelle qui vient d'être instaurée, apparaît comme quelque chose de relativement modéré, mais même, on pourrait dire, d'assez novateur, presque de révolutionnaire, en tout cas du point de vue de tous les notables de France et de Navarre, eh bien, lui va beaucoup plus loin. Il est partisan de la République et on va le voir s'opposer à tous les ministères de Louis-Philippe. Il dit en 32 qu'il désire une politique du juste milieu entre le système du 13 mars, du 13 mars 1831, ça c'était la date à laquelle Casimir Perier avait été nommé Premier ministre pour remplacer Lafitte, pour essayer justement de donner un peu de mou, entre ce système du 13 mars et la République proprement dite, dont aujourd'hui la France ne veut pas, reconnaît-il néanmoins. Il est élu conseiller général de la Seine dès 1830, donc conseiller municipal de Paris, et aux élections à la Chambre des députés en 1831, il se présente dans deux endroits. À l'époque, on avait tout à fait la possibilité de présenter comme ça plusieurs candidatures. Il se présente dans l'arrondissement de l'Observatoire, évidemment, là où il travaille, dans le 12e arrondissement de Paris à l'époque, et dans son département natal, les Pyrénées-Orientales. En fait, il est élu dans les deux. Et il va opter, vous l'aurez deviné, pour les Pyrénées-Orientales. Il sera ensuite constamment réélu député comme ça pendant 20 ans. C'est donc un homme politique très actif et dont les interventions sont tout à fait remarquées. À Paris, il va contribuer aux réflexions sur les fortifications. Vous savez que c'est l'époque où on installe tout ce système des fortifs autour de la capitale, à la question de la navigation sur la Seine, aux alimentations de Paris en eau. Bref, dès qu'il y a un sujet un peu scientifique, c'est à Arago qu'on demande ses lumières. Il prend part à tous les grands débats sur les questions de marine, de canaux, d'instruction publique, à toutes les innovations, le daguerréotype, les machines à vapeur, les chemins de fer, les choses et mortiers hydrauliques, le télégraphe électrique, etc. Et il va faire devant la Chambre pas moins de 66 discours répertoriés. L'un de ses grands discours, c'est celui du 16 mai 1840. Et celui-là ne porte pas sur les sciences, il porte sur la réforme électorale. Il évoque la nécessité d'organiser le travail, dénonce les souffrances de la classe ouvrière. Il affirme que le progrès social sera obtenu par la réforme électorale et le remplacement du suffrage censitaire, c'est-à-dire un suffrage où seules les personnes fortunées avaient le droit de voter, par le suffrage universel. « Il y a, messieurs, dit-il, dans le pays, je l'ai prouvé par des chiffres, une partie de la population en proie à des souffrances cruelles. Cette partie de la population est plus particulièrement la population manufacturière. » Eh bien, le mal ira tous les jours en empirant. Les petits capitaux dans l'industrie ne pourront pas lutter longtemps encore contre les grands capitaux. L'industrie qui s'exerce avec des machines l'emportera sur l'industrie qui n'emploie que les forces naturelles de l'homme. D'ici à quelques années, la population ouvrière tout entière se trouvera à la merci d'un très petit nombre de capitalistes. C'est assez extraordinaire parce que c'est à la fois très visionnaire ce qu'il dit et en même temps, vous voyez qu'il fait toujours entrer des considérations pragmatiques, voire scientifiques dans les arguments qu'il avance. Très grand succès pour Arago. Il faut imaginer 10 000 ouvriers qui viennent faire cercle devant l'observatoire pour le remercier dans la semaine qui suit ce discours. Arrive là-dessus la fameuse révolution de février 1848 qui va chasser Louis-Philippe du trône et l'on peut bien imaginer que ce républicain dans l'âme va faire partie du gouvernement de la Deuxième République. Il est ministre de la Marine et des Colonies avant d'être ministre de la Guerre. C'est sa place naturelle, dit Lamartine, avec sa science, son autorité sur les armes savantes, sa renommée aussi vaste que le globe où son nom allait flotter. Il va le prendre, Arago, pendant le court laps de temps où il sera aux affaires, où il va être lui-même aux responsabilités, il va prendre un certain nombre de mesures libérales et humanistes sur lesquelles je vais revenir et m'attarder un peu dans un instant.
Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la vie de François Arago.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de François Arago.
Alors c'est une courte vie et surtout c'est une courte vie politique parce que d'abord cette Deuxième République elle ne dure pas très longtemps, hein, vous savez, elle dure de 1848, de février 48 à 1851, décembre, et surtout à partir de décembre 48, on a un nouveau président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, qui va faire évoluer le régime. Arago n'occupe de fonction efficace que dans le gouvernement provisoire de cette Deuxième République, donc dans les mois de mars et avril 48. Or, ça lui suffit quand même pour influer suffisamment pour faire voter le suffrage universel masculin, les premières élections auront lieu le 23 avril 48, pour faire voter l'interdiction des châtiments corporels dans la marine, pour faire voter l'abolition de l'esclavage. Ça, c'est la grande affaire dont le fer de lance est Victor Schœlcher, vous le savez bien. Ça, c'est la loi du 27 avril 1848. Donc, c'est fondamental. Et pendant tout ce temps-là, bien entendu, Arago n'oublie pas la science. Il fait partie, vous savez, de ces esprits éclairés, de ces gens qui considèrent que le progrès permettra à l'humanité d'aller mieux. On est encore dans cette grande... Non seulement on est encore, mais je dirais même qu'on est au début de cette foi extraordinaire dont il va être lui-même, en quelque sorte, l'incarnation. Le problème, c'est qu'il y a la réalité politique. Il y a notamment ce qu'on appelle l'affaire des ateliers nationaux. On est au mois de juin, fin juin 1848. La commission exécutive, qui est un peu le gouvernement, si vous voulez, a décidé de dissoudre les ateliers nationaux qui avaient été créés pour résorber le chômage, mais qui étaient en train d'entraîner tout simplement la faillite de l'État. On demande aux ouvriers d'aller s'engager dans l'armée, de partir en province, etc. Vous vous doutez bien qu'ils ne sont pas d'accord. Donc il y a des révoltes, des émeutes, on envoie l'armée. C'est Cavaignac qui a été chargé par la commission de rétablir l'ordre. Il va y avoir des milliers de morts, des blessés, et ça va être un coup de poignard dans le cœur d'un grand nombre de républicains. On se rappelle bien entendu des lamentations de George Sand à cette occasion, mais Arago fait partie de ceux qui sont dégoûtés. Il va démissionner, il se retire à l'Observatoire. Et alors Victor Hugo écrit dans Choses vues, je trouve ça magnifique, « François Arago ne paraît plus à l'Assemblée. Oh, quand on a deux spécialités, de regarder le ciel et de regarder la terre, je comprends qu'on préfère la première. » La vérité aussi, c'est que François Arago, certes, est dégoûté de la politique, mais qu'il a de graves soucis de santé. Il est atteint du diabète depuis longtemps. Ça le gêne beaucoup dans l'exercice de ses fonctions, même s'il est, très bien entouré par sa famille, qu'il aime, on va y venir, à sa famille. Il a perdu sa femme déjà depuis un certain temps. Il a trois enfants, Emmanuel, Alfred, Gabriel, qui sont là, qui sont proches. Il a sa sœur également, Marguerite, qui s'occupe de lui. Il va être réélu quand même député en 1849, mais il ne visite sa circonscription que très tard, en 1853. Et quand il vient visiter sa circonscription, il est vraiment à l'article de la mort. Il a effectué 18 mois plus tôt un séjour à Vichy, mais ça n'a rien changé. Il part pour Perpignan le 22 août 1853. Trois mois avant de mourir, il se rend une dernière fois donc dans sa ville d'élection, si je puis dire. Un voyage programmé par ses médecins, à bout de ressources, note Alex de Humboldt, mais à son retour à Paris, il revient encore plus malade. Il voulut faire un long détour afin d'aller saluer le père de M. Flourens, son collègue comme secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences, et rapporter à son confrère des nouvelles du vieillard. Il ne trouva pas de plus grand plaisir à faire à son savant ami que de lui dire « Moi, infirme qui vais mourir, j'ai vu votre père et je peux vous dire qu'il va bien ». Effectivement, il va bientôt mourir, François Arago, le 2 octobre 1853. Ça a été un choc, évidemment, pour toute la communauté scientifique, mais aussi politique. À l'Académie des sciences, la séance du 3 octobre est suspendue au moment où on apprend cette mort. Et toute cette académie qui se lève en silence et qui se retire pénétrée d'affliction, nous disent les comptes rendus de l'Académie. Des funérailles solennelles vont lui être octroyées par le tout nouveau régime de Napoléon III. Il sera inhumé au cimetière du Père Lachaise. Et c'est Humboldt, bien sûr, qui va prononcer l'oraison funèbre. « Je suis fier de penser que par mon tendre dévouement et ma respectueuse admiration, je lui ai appartenu pendant 44 ans, que mon nom sera parfois prononcé à côté de son grand nom et que tous mes ouvrages porteront le témoignage de ma reconnaissance et de ma vive affection. » On peut dire qu'Arago est mort assez pauvre, après une vie assez simple, mais une vie dont j'espère vous avoir démontré qu'elle aura été à peu près tout sauf banale. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Franck Ferrand.
Alors, je me suis un peu attardé sur les chemins de la politique, bien entendu. J'ai insisté sur le député, sur le ministre du gouvernement provisoire de 1848, sur l'humaniste, sur l'homme qui croyait dans le progrès. Avec vous, ce que nous allons faire, c'est bien sûr revenir sur tout ça, mais surtout nous attarder un peu sur le découvreur, sur l'inventeur, sur le pédagogue, sur l'extraordinaire scientifique qu'a pu être Arago.
Vous nous parlez cet après-midi de François Arago, Franck Ferrand, avec votre invité Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace.
Le magazine Ciel et Espace, magazine de l'astronomie que j'ai justement entre les mains. J'ai le numéro d'avril 2014 qui est consacré en grande partie à Mars, Alain Sirou.
Oui, c'est pas une blague en plus, c'est vraiment Mars à l'opposition. Mars en avril, même si on discute beaucoup de ce que l'on voit sur Mars aujourd'hui. Une planète qui intéressait évidemment Arago, mais je dirais pratiquement comme toutes les sphères autour de lui.
On va aller s'y promener là bientôt,
oui,
c'est ça ?
Absolument.
Et puis j'ai également entre les mains le très beau numéro de printemps 2014 de la revue Macrocosme, le mag du ciel et de la terre. Vous avez travaillé sur la question de l'énergie là. Alors c'est beaucoup plus thématique en fait.
Oui, parce que l'énergie c'est un peu comme le temps. Vous savez ce que disait Saint Augustin, si on ne me le demande pas, je sais ce que c'est, mais quand on me le demande, j'ai un peu plus de difficulté à le dire. L'énergie, c'est ce qui mesure la transformation. C'est, je dirais, la lumière est une manifestation de l'énergie. Et c'est à cette lumière que Arago va consacrer sa vie, parce que c'est un homme de lumière, à tous les plans, dans toutes ses composantes. J'ai cherché, finalement, autour d'Arago, ce qu'on disait de lui dans le domaine scientifique. Et c'est assez intéressant de voir qu'on l'appelle le savant généreux, on l'appelait le prophète des savants, l'éclaireur des sciences. À chaque fois, cette idée de lumière et le mot savant.
Ces explications étaient limpides, en vérité. Alors, il faut dire, il faut faire un véritable cocorico, là, puisque vous êtes celui, Alain Sirot, qui a redécouvert la correspondance de François Arago, la correspondance scientifique, avec toutes sortes de personnalités très importantes, d'ailleurs. Où se trouvait ce corpus de lettres inédit?
Alors, Arago était un membre éminent de l'Observatoire de Paris, et dans cet observatoire, il y a ce qu'on appelle le Bureau des Longitudes, qui a eu, dans le parc Montsouris, dans le 14e à Paris, un observatoire, et j'ai la chance de travailler dans cet observatoire, ancien observatoire du Bureau des Longitudes, et dans un des bâtiments méridiens, donc une petite maison qui permettait de lever des lunettes méridiennes et regarder le passage au méridien des étoiles, eh bien, vivaient des clochards qui dormaient sur des papiers, des vieux papiers, des journaux, avec des chats, heureusement, qui protégeaient des souris. Et le jour où on a, je dirais, décidé de réaménager ces locaux, de les entretenir, etc., on a redécouvert, sous un tas d'archives, la correspondance scientifique. Et je dirais plus que scientifique, la correspondance d'Arago, c'est-à-dire des milliers de lettres qui témoignent de son époque où il discutait aussi bien avec Napoléon, avec Humboldt, dont on a parlé, avec Victor Hugo, et avec les pairs de France, qui étaient ses compagnons à la chambre. Et on découvre à ce moment-là des lettres tout à fait extraordinaires, parce qu'on s'écrivait, on ne s'envoyait évidemment pas des mails à l'époque, mais on voit à travers l'écriture la passion qui animait Arago, et en même temps l'extraordinaire discipline, exigence scientifique de peser le bon mot, d'avoir le terme exact, et d'avoir, je dirais, une mécanique de démonstration qui permette aux gens de le suivre clairement.
Oui. Il faut dire que, d'abord, je trouve très beau, cette idée que des clochards de Montsouris aient pu dormir pendant des années sur la correspondance d'Arago, c'est assez extraordinaire.
Sur des trésors.
On est dans une époque de complet décollage scientifique, il faut le dire. C'est le moment où naît l'industrie en France, où le chemin de fer est en train de donner une dimension incroyable à cette révolution industrielle, où l'on découvre à peu près tout ce que la science moderne va ensuite développer.
On est finalement au carrefour de trois révolutions qu'on a souvent qualifiées de révolution industrielle qui méritent d'être discutées parce que c'est sans doute
plus complexe que ça. Mais je suis d'accord.
Mais il y a trois révolutions. Il y a une révolution de l'énergie, c'est-à-dire qu'on passe d'un système de la force animale, humaine, à l'utilisation...
La vieille traction musculaire.
À l'utilisation de la vapeur et je dirais par la suite de l'électricité, de la force électrique. C'est une première révolution qui est extrêmement importante et qui va changer la donne. C'est une révolution des transports, puisque vont se développer en conséquence une plus grande mécanisation de fabrication d'acier. Et donc, par la suite, des bateaux différents, le chemin de fer à vapeur qui rentre en plein dans la discussion à ce moment-là. Et puis, une révolution extrêmement importante des télécommunications, à laquelle va être associé Arago, parce que le mot astronome à l'époque est un mot générique. On ne peut pas mettre Arago dans une boîte. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile de dire ce qu'il a réellement fait, comme on le dirait aujourd'hui d'un astrophysicien, d'un planétologue, d'un cosmologiste.
Aujourd'hui, on est beaucoup plus spécialisé. Aujourd'hui, on a affaire à des scientifiques.
Absolument. Et là, c'est un couteau suisse.
À l'époque, c'était encore un savant.
C'était un savant, et la mission du Bureau des Longitudes, donc en tant qu'astronome, c'est aussi bien de dire à quelle heure se lève et se couche le soleil, les planètes, la lune et les étoiles, que de mesurer la Terre, la géodésie, que de regarder la météo, que de s'intéresser à la lumière, que finalement, quelque part, c'est un curieux professionnel qui va... Alors, et sans doute qu'il a quelque chose de très particulier, c'est d'abord un observateur, c'est un expérimentateur, c'est quelqu'un qui adore, je dirais, fabriquer, observer, voir, et ça, ça va mener toute sa vie. C'est quelqu'un qui a des idées originales, ça c'est absolument fondamental, c'est quelqu'un qui sait travailler avec les autres, et qui sait promouvoir les autres quand ils ont une bonne idée, et puis évidemment, et sans doute c'est le plus important, il s'enthousiasme pour tous les nouveaux modèles qui sortent, toutes les nouvelles idées de la science, et c'est vrai que quand Daguerre parle d'une façon de faire de la photographie, immédiatement pour Arago, c'est l'idée qu'on peut l'améliorer, c'est qu'on peut photographier le ciel. C'est
quelque chose. Les potentialités des découvertes.
Absolument.
Hein. Il a un côté très pratique finalement, et c'est en ça d'ailleurs qu'il va être peut-être un homme politique efficace. C'est que en dehors de la puissance de son cerveau et de sa capacité d'explication, puisqu'on a vu à quel degré l'orateur pouvait fasciner ses auditoires, il est aussi celui qui va voir les applications possibles des découvertes de tous ses confrères. Et il voit les potentialités de l'électricité, les potentialités de la photographie, les potentialités du chemin de fer, enfin, etc.
Parce qu'il ne vit pas dans un laboratoire. Il n'est pas coupé du monde. Et d'ailleurs, quand on parle du début de la carrière scientifique d'Arago, c'est quelque chose qui le conduit pendant 3 ans à s'éloigner de la France, à mesurer le méridien terrestre avec une plus grande acuité que Méchain et Delambre juste après la Révolution. N'oubliez pas que l'idée de la Révolution, qui était extrêmement généreuse, c'était que on uniformise les longueurs, tous les éléments qui permettent de se repérer, je dirais, alors qu'avant c'était des toises, enfin il y avait des tas d'instruments de mesure. Et l'idée de la Révolution, c'était de prendre quelque chose qui soit universel. Et quoi de plus universel que la longueur de la Terre, et en particulier la longueur du méridien terrestre. Et donc, il va continuer l'œuvre de Delambre et Méchain, entamée à ce moment-là, qui est de mesurer ce quart de méridien terrestre entre Dunkerque et Barcelone, qui va descendre jusqu'au Baléares, pour faire que chez chaque personne dans ce monde, le maître soit un 10 millionième du quart de méridien terrestre.
Que ce soit parfait, que ce soit la bonne dimension du
maître. Et que ce soit universel, ça n'appartienne à personne. Voilà, ça soit quelque chose qui soit de nature universelle, comme devait l'être le bonheur.
Et ce qui est très beau dans ces histoires-là, c'est de voir à quel point cette tension vers l'universel, cette volonté d'établir le maître étalon, va amener par ailleurs des circonstances incroyables, puisqu'on le voit effectivement en Espagne, avec, j'ai raconté, hein, quand il est fait prisonnier, il s'en va en Algérie, il est capturé, enfin, etc. Il y a tout un roman dont le but ultime est de rapporter les documents qui permettront de savoir exactement combien mesure un mètre. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, dans un instant, avec vous, Alain Sirou, on va essayer d'entrer un peu plus dans le détail de ce qu'a pu faire François Arago, et surtout de ce qu'il a fait comprendre aux autres, car n'oublions jamais qu'il y avait en lui un extraordinaire pédagogue.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de François Arago, avec votre invité Alain Sirou, consultant scientifique d'Europe 1, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace et également du trimestriel Macrocosme, dont le dernier numéro est consacré à l'énergie.
Et oui, avec une interview notamment de Jean-Marie Pelt, grand spécialiste de Humboldt, c'est lui qui devrait venir nous en parler. Je le salue très chaleureusement en attendant cette occasion. Je me rappelle c'est une petite anecdote, ça, évidemment, Alain Sirou, mais il y a quelques années, il y a déjà pas mal de temps d'ailleurs, je crois, on a installé dans Paris des espèces de petits plots ronds avec écrit Arago qu'on croisait comme ça sur les trottoirs.
Ça matérialise justement la ligne méridienne.
Ah, voilà, c'est ça.
Et on l'a appelé le méridien Arago, puisque effectivement, avec Delambre et Méchain, donc ses prédécesseurs, on lui doit énormément pour cette détermination.
Alors, j'ai cité tout à l'heure un certain nombre d'expériences extrêmement complexes comme ça, a priori. Disons, pour essayer de simplifier, qu'Arago a travaillé sur la lumière, et notamment sur la nature de la lumière.
Ouais, 40 ans. Ouais. On peut dire l'œuvre scientifique d'Arago tourne autour de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Et c'est vrai qu'à l'époque d'Arago, il y a deux théories qui s'affrontent. Il y a la théorie newtonienne, qu'on appelle corpusculaire. C'est-à-dire la lumière est composée de petits grains de lumière. Et puis
des photons.
Des photons. Et puis, de l'autre côté, une autre théorie, celle de Huygens, qui est défendue par Huygens, qui est la nature ondulatoire de la lumière. Vibratoire, en quelque sorte.
Ouais. Vibratoire. Alors, tout le monde d'accord plus tard. Hein, ce sera Breuil, hein, plus tard, pour le coup, entre autres.
Hein. Entre autres, effectivement, et jusqu'à Einstein, finalement, la lumière est une onde, transversale électromagnétique, c'est-à-dire un champ électrique et un champ magnétique.
Elle est à la fois corpusculaire et ondulatoire.
Exactement. Exactement. Mais c'est vrai que Arago, encore une fois, l'expérimentateur, va conduire des expériences. Et parmi les expériences qu'il va conduire, il va d'abord essayer de voir si les étoiles qui envoient de la lumière, parce que l'information pour l'astronome, c'est la lumière, si cette lumière, elle va à la même vitesse partout. Donc il va fabriquer des expériences avec des instruments pour essayer de voir si la lumière qui vient des différentes étoiles va à la même vitesse ou pas. Et évidemment, enfin, on dit ça évidemment maintenant, mais il démontre que il n'y a pas de différence entre les étoiles. Et puis, la seconde chose, et qui est beaucoup plus subtile et très intéressante, c'est que il va essayer de calculer la vitesse de la lumière quand la Terre va en direction d'une étoile ou quand elle s'éloigne d'une étoile. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Eh bien, si vous filez en direction, de Vega au printemps, vous allez faire demi-tour, si je puis dire, avec la Terre en automne. Et il va essayer de mesurer cette vitesse de la lumière. Et là aussi, il va s'apercevoir que la mesure ne change pas. Alors, il va s'intéresser ensuite à la lumière sur la Terre. C'est-à-dire, est-ce que la lumière, quand elle est dans l'air ou quand elle traverse l'eau, est-ce qu'elle va à la même vitesse? Donc, vous voyez, il y a cette espèce d'obsession permanente de travailler sur ce qu'est cette lumière pour la comprendre.
Il ne s'intéresse pas seulement à la lumière, il s'intéresse au son aussi, par ailleurs.
Alors, oui, parce que ce sont des mesures.
Question toujours vibratoire. Oui.
Il va faire avec le son des expériences où on va recommencer des expériences du passé, où on va tirer à coup de canon sur la tour de Montlhéry, près de Paris, et on va écouter à Villejuif, et à Villejuif, on va tirer aussi au canon, et on notera le temps entre le moment où on voit la lumière du canon et le moment où on entend la réponse, en quelque sorte, ce qui permet de mesurer la vitesse du son, et puis aussi la vitesse du son à certaines températures. Quelle est l'influence de l'atmosphère à ce moment-là? Est-ce que la température, est-ce que le vent, est-ce que les conditions climatiques font varier le son? Est-ce que ça aurait aussi une incidence sur la lumière? Mais il est quelqu'un d'extrêmement attentif à ce qui se passe autour de lui.
Cette ouverture au monde et aux autres, c'est bien dans sa famille qu'il l'a reçue au départ. On voit les parcours relativement parallèles des quatre frères. Non, c'est quand même assez frappant, ça.
Oui, mais c'est...
Les parents devaient être des gens très curieux.
Les parents devaient être des gens très curieux, très ouverts, et ils se sont battus pour faire émerger un certain nombre d'idées. Je dirais peut-être que aujourd'hui on les regarderait avec un œil différent, peut-être de résilience. Quel est le motif de la résilience? On ne le sait pas nécessairement. L'histoire peut-être peut se pencher sur cette question, mais comment dire, Arago est un peu une éponge. Il est quelqu'un qui absorbe les idées autour de lui et sur la lumière. Pour rester là-dessus, il a un ami à lui qui s'appelle Étienne-Louis Malus, et qui va finalement, en observant le coucher du soleil, et c'est extraordinaire, par réflexion sur les fenêtres du palais du Luxembourg, s'apercevoir que quand on regarde cette réflexion dans un cristal, eh bien la lumière change si on bouge le cristal. Alors on dit, qu'est-ce que c'est? Il en fait part à Arago, qui regarde ça et qui s'intéresse et recommence des expériences. Il va découvrir ce qu'on appelle la polarisation.
Voilà.
C'est-à-dire en fait une direction dans la lumière qui donne des informations sur la nature des corps. Et on va s'épargner, je veux dire, toutes les discussions scientifiques et les démonstrations, mais ce que découvre Arago, et c'est peut-être l'œuvre scientifique la plus importante, et sa contribution la plus importante, c'est que le Soleil, qui est le principal émetteur de lumière dans notre environnement, est un corps gazeux. Il va démontrer, grâce à cette polarisation, grâce à des polarimètres, c'est-à-dire des appareils installés pour comprendre la nature des corps, que c'est émis par du gaz. Et à l'époque, on ne sait pas ce qu'est le Soleil. Certains pensent que c'est un magma, d'autres...
On se pose des questions sur la nature des astres. Lui, il se la pose, évidemment, cette
question. Il est le premier astrophysicien. Il marie la physique et l'astronomie. Et je dirais, c'est sans doute à ce moment-là que on regarde l'étoile différemment, parce qu'on sait que c'est une boule de gaz qui émet de la lumière.
Il s'intéresse aussi beaucoup à l'électromagnétisme.
Oui.
Il faut dire que ça aussi, ça lui paraît porteur d'un nombre incroyable d'innovations. On est toujours dans cette espèce de volonté de comprendre le monde qui nous entoure.
Oui,
souvenez-vous,
je dirais, dans les temps anciens, très très anciens, on prenait une baguette d'ambre et on la frottait contre sa manche et ça faisait venir toutes les magiques. Et l'ambre, en grec, ça se dit électro. Électron. Et là, il a la chance, Arago, d'assister à une expérience qui est célèbre, qui est l'expérience du Danois Ørsted, qui montre que finalement, il y a un effet du courant électrique sur un aimant. C'est-à-dire que l'aimantation par une affaire électrique, enfin par un courant électrique, aimante le fer. L'électro-aimant est découvert à ce moment-là par Arago, justement. Et n'oubliez pas que c'est le moment où naît, l'électricité, l'expérience d'électricité, qui va conduire à l'installation du télégraphe. Et le télégraphe, c'est quoi? C'est finalement l'application d'un électroaimant, d'une information électrique qui est transportée par fil pour donner de la communication. Donc on voit encore une fois qu'il se rapproche à ce moment-là de personnes comme Ampère, de personnes comme Fresnel, de gens qui vont prolonger, poursuivre, développer des applications. Mais Arago est, je dirais, au moment où il faut les soutenir, les observer, les retenir et les prolonger par des idées. Donc, on est là dans un des morceaux de ces révolutions, de ces trois révolutions dont je parlais tout à l'heure, c'est celle de la communication. Communiquer grâce à un système électrique, grâce à une information, et elle va exploser, elle va désenclaver le monde, puisque en 1858, donc, je dirais finalement peu de temps après, on va communiquer entre l'Europe et les États-Unis grâce au télégraphe.
Mais n'est-ce pas, nous avons raconté ça à ce même micro il n'y a pas si longtemps.
Absolument.
N'est-ce pas, Céline? Je vous vois qui hoche la tête.
Tout à fait.
Alors, je vous écoute, Alain Siroux, et je me dis que finalement, s'il y avait un point commun entre tous ces centres d'intérêt tellement magnétiques chez Arago, c'est précisément celui des communications. Quand il veut aménager les fleuves, c'est pour permettre de faciliter les échanges et les communications. Même chose avec la machine à vapeur et le chemin de fer. Même chose avec ce télégraphe électrique et les utilisations diverses de l'électromagnétisme. Peut-être même chose aussi avec les cours qu'il donne, car en tant qu'astronome, les cours et les ouvrages populaires qu'il en tire sont aussi un moyen de communiquer, toujours cette dimension communicative.
C'est extraordinaire, parce qu'il est, je dirais, celui qui est absolument persuadé, on a parlé des lumières, mais que la raison et je dirais va faire évoluer le monde dans le bon sens. Il est dans une période où il a la responsabilité de la mesure à la fois ce qui se passe dans l'espace mais aussi sur la Terre. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la marine, à la météorologie, à la géodésie. Son ami Humble est sans doute un des derniers je dirais grands, ce qu'on appelle s'aventurier, c'est-à-dire personne qui a été à la découverte du monde. Et ce monde est en train de se mettre en lien. Et communiquer cela au public, c'est finalement faire adhérer.
Il faut imaginer ce que ça devait être à l'Observatoire de Paris que les centaines, je dis bien les centaines d'auditeurs qui arrivaient, il y avait là de 5, 6, 7, 800,
jusqu'à
900 personnes qui s'entassent pour écouter Arago s'enflammer et leur raconter l'univers.
Ils montent en chair et ils racontent le ciel, ils racontent l'électricité, ils racontent la mesure. Et c'est assez drôle parce qu'il l'explique bien dans la préface de son Astronomie populaire. Si vous le permettez, je vais juste citer ces quelques lignes. Il dit dans cette préface, il dit « On raconte que pour prémunir les voyageurs contre l'ennui et le découragement qui souvent s'emparent d'eux lors de la traversée des déserts sablonneux et brûlants de l'Afrique, eh bien, les chefs des caravanes ne manquent jamais de leur dépeindre à l'avance les délices de l'oasis. Ainsi n'ai-je pas cru devoir faire, mais j'ai cherché à enlever les considérations techniques sans lesquelles la marche du lecteur n'aurait rien d'assuré, tout ce qu'elles peuvent présenter de trop ardu dans la forme, en m'attachant cependant à leur laisser la plus entière exactitude. » C'est
voilà,
un vulgarisateur
ça,
qui fait attention
ça nous parle,
à la
ça, n'est-ce pas?
C'est un métier.
C'est un métier et c'est une vocation, même, on peut le dire. On pourrait croire qu'un tel homme n'a aucun ennemi. Eh bien si, pourtant il en a eu. Notamment le verrier, là, qui a été quand même terrible.
Oui, mais il l'a aidé aussi. C'est-à-dire qu'il est capable de se rendre compte que le verrier veut le descendre, si je puis dire.
Qui est le verrier en deux mots?
C'est Monsieur Neptune. Oui. C'est le découvreur de Neptune.
Grand astronome aussi.
Grand astronome,
hein.
mais épouvantable personnage sur le plan humain, sur le plan relationnel avec ses collègues. Et puis, il veut détruire, je dirais, Arago, qu'il jalouse terriblement. Il intrigue contre lui. Et finalement, il ne réussit pas du vivant d'Arago à avoir sa place. Sauf que quand Arago meurt, la première chose que fait le verrier, c'est de détruire l'endroit où Arago fait ses conférences, de faire disparaître cette salle de conférences. Et elle ne rouvrira jamais.
Quand même incroyable.
Et de refermer l'observatoire l'Observatoire de Paris sur le trou noir qu'il pourrait héberger quand la gravité s'impose à lui, cette ouverture n'a jamais vraiment complètement eu lieu, juste encore au XXIe siècle. Et je dirais que l'esprit d'Arago, c'est sans doute ça, c'est il faut redonner de la puissance à la connaissance, à l'astronomie populaire, discuter sans tabou de ce que les sciences peuvent nous apporter et du bonheur, de la magie et de la lumière qu'elles procurent quand on s'y intéresse.
Il faut aussi être conscient que l'époque n'est plus tout à fait la même et que ce qui faisait tant rêver fait un peu moins rêver. Mais vous faites partie, vous, Alain Sirou, de ceux qui sont encore capables de nous faire largement rêver sur la science et de le faire notamment à travers vos magazines. En l'occurrence, Macrocosme, le numéro de printemps 2014 est en kiosque. On y parle de l'énergie, on y parle de toutes sortes d'aspects de cette énergie que vous avez sous-titré « L'or du monde ». Et puis, mais ça, je n'ai même pas besoin de le dire, tant c'est une référence pour tous les amoureux de l'astronomie. La livraison d'avril 2014 de « Ciel et espace » est en kiosque en ce moment. Et elle se consacre en grande partie, mais pas uniquement, bien sûr. Il y a toujours les cartes du ciel et tout ça. Hein. Elle se consacre en grande partie ce mois-ci à la planète Mars. Vous viendrez nous parler de Mars, tiens, de ces jours. C'est un beau sujet, ça, Mars.
Très beau sujet.
On pourrait presque en parler ensemble. Tiens, ça me donne des idées. Merci beaucoup, Alain Sirou.
Merci.
Dans un instant, sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question d'Émilie sur l'origine de l'expression « jeter l'éponge ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Émilie. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle aimerait connaître l'origine de l'expression « jeter l'éponge ».
Oh ben non, c'est pas du jeu, c'est trop facile. Ça. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il va falloir, Émilie, trouver des questions plus compliquées que ça. En l'occurrence, ça vient du monde de la boxe, hein, tout simplement. C'est une expression qui date des premières années du XXe siècle, même si la boxe, elle... Et alors là, vous avez vu que je pourrais rebondir là-dessus et vous raconter l'origine de la boxe olympique, du pancras, etc. Enfin bon, en l'occurrence, pour ce qui est de notre boxe moderne, l'entraîneur du boxeur a l'habitude d'utiliser, vous savez, une serviette ou une éponge entre chaque round pour essuyer la sueur et, disons-le, un peu le sang sur le visage du sportif pour le rafraîchir. Eh bien, bah oui, je dis ça en termes élégants, Elena Morna, mais voilà.
Donc, vous entendez parler
pendant
de ça,
le combat, si le soigneur constate que son protégé est sans résistance, il a la possibilité de jeter l'éponge ou la serviette au milieu du ring. Ça veut dire qu'il demande l'arrêt du combat. D'où l'expression « jeter l'éponge », ce qui veut dire qu'on abandonne le jeu, tout simplement. Alors, il y a comme ça beaucoup d'expressions qui viennent du sport. Dans un sport qui m'est cher, c'est le jeu de paume, parce que là, on est tout de suite, on remonte dans des siècles qui me sont plus familiers, évidemment. Vous avez des expressions comme « épater la galerie », « jeu de main », « jeu de vilain », « tomber à pic », « prendre la balle au bon », tout ça qui sont directement liés à la façon qu'on avait de jouer à la paume. On pourrait s'amuser à faire un concours, on pourrait tous trouver une expression qui a un rapport comme ça avec des règles ou des pratiques sportives. Donc, Émilie, à vos crayons, trouvez-nous une énigme et une question plus musclée pour la fois prochaine.